C'est assez, je ne veux pas dire étonnant, parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part du Seigneur, mais Merdi, dans l'introduction de la scène, nous a parlé de souffrance et d'offrir nos corps en sacrifice, et que Dieu voit les sacrifices que l'on fait. Et puis, Antoine nous parle effectivement de ces difficultés où il a eu un accident, il était dans le coma, beaucoup de difficultés. Et donc, là, sans qu'on se concerte les uns et les autres, je vais essayer de faire court, mais voilà, ce sera aussi sur le thème de la souffrance. Y a-t-il ici des femmes qui ont accouché ? Il semble. Est-ce que vous regrettez les douleurs de l'enfantement ? Moi non plus. Pourtant, j'ai assisté, Daniel, à tous les accouchements. Hein. En fait, je pourrais résumer ce que je vais dire, mais je vais essayer de faire court. Hein. Pour être en bénédiction, pour avoir la joie d'avoir un enfant, en l'occurrence, là, il faut passer par de la souffrance. Et dans nos vies chrétiennes, si nous voulons être bénédiction, et nous le voulons, je suppose, soit bénédiction, nous ne pouvons pas, en tant que disciples du Christ, être en bénédiction pour les autres sans souffrance. Je pourrais vous dire autre chose, hein, mais quand même, là, alors ça résume pas toute la vie de foi, mais on ne peut pas passer à côté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement venir vers Dieu en disant « je viens vers lui parce que je n'ai pas envie de souffrir d'aucune manière ». Donc ça ne fonctionne pas. Ce serait faux de le dire. La Bible est truffée d'exemples, de témoignages de personnes qui ont souffert, mais leur souffrance... Je ne sais pas, mais et leur souffrance a permis d'apporter une bénédiction, puisque c'est le thème. Alors que ces personnes-là passaient par des souffrances injustes. Je pense à un Joseph qui a été emprisonné, vendu d'abord par ses frangins comme esclave, et puis emprisonné injustement. Tout ça pour arriver à quoi ? Tout ça pour arriver à être Premier ministre en Égypte. Moïse a souffert, il a été obligé d'être dans le désert. Lui, il était bègue. Et je me dis, mais c'est complètement dingue que Dieu prenne un bègue pour être son porte-parole. Non mais, ça dépasse un peu l'entendement, quoi. Moi, je veux un porte-parole, je vais prendre un bègue. Ah ben, c'est pas pratique, hein. Mais Moïse a souffert, il a certainement souffert dans son enfance. Difficile, enfin, c'est pas le sujet, j'allais quand même dire, difficile d'être fils d'esclave alors qu'il était à la cour de Pharaon. Mais sur le plan psychologique, ça devait être compliqué. Je pense à Sarah, je pense à la femme d'Abraham, je pense même à Abraham. Enfin bref, ils sont pléthore d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont souffert, mais qui ont été une bénédiction. Pensons juste à l'apôtre Paul. Purée, il en a bavé, hein. Mais heureusement qu'il a accepté, parce que ça nous permet d'avoir une grande partie du Nouveau Testament. Et comment ne pas parler ou penser aux souffrances de Jésus, et particulièrement au jardin de Gethsémané, vous savez, frappés. Hein. C'est là, dans ce jardin, qu'il dit à Dieu, « Ah, si seulement cette coupe de souffrance, tu pouvais l'éloigner. » Autrement dit, est-ce que tu es sûr, ô mon Père, qu'il n'y a pas d'autres moyens, d'autres solutions ? Eh bien, que ta volonté soit faite. En fait, dans ce jardin, Gethsémané, ça veut dire pressoir à huile, parce que c'était le jardin des oliviers. Et nous sommes parfois, nous-mêmes, comme des olives écrasées. Enfin, peut-être pas vous, mais... on est comme dans le pressoir. Et puis ça fait mal, et puis on descend, et puis aïe, au secours, arrête! Si la souffrance pouvait m'être épargnée. Lorsqu'on veut faire un vase, enfin j'en sais rien, moi je ne suis pas potier du tout, je ne suis pas artiste non plus, mais forcément il faut que l'argile soit malléable. Et que des fois il faut la malaxer pour qu'elle soit un peu plus souple. Le Seigneur, et ça... Il faut partir avec cette phrase-là. Le Seigneur n'est pas l'auteur de nos souffrances. Et il ne veut pas nous faire souffrir parce que ce n'est pas son but. Par contre, il se sert de la souffrance pour que nous devenions bénédiction autour de nous. Jean 15, Jésus enseigne que le vigneron coupe les sarments des vignes pour quoi faire ? Ben pour qu'il n'y ait plus de fruits. Faut couper. Aïe ! Ah ouais. Il faut couper, sinon il n'y a pas beaucoup de fruits. Le grain de blé doit mourir pour pouvoir donner d'autres grains, d'autres épis. Il y a une loi dans la nature. Et il y a une loi identique sur nos vies spirituelles, sur nos vies personnelles. Je vais faire court, mais pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu mes 20 ans dans une circonstance un peu spéciale. J'étais en pleine déception sentimentale, carabiné, ça a duré 9 mois, et on m'a demandé d'aller m'occuper de marginaux et de toxicomanes et... enfin bref, de cas difficiles, c'était dans le sud de la France et on enlevait les poubelles du supermarché et ils nous donnaient tout ce qui était invendu. Donc on mangeait bien, mais le problème c'est qu'on avait une grande remorque. Les employés mettaient dedans leurs poubelles, il y en avait tout autour et donc le premier boulot quand on arrivait vers ces poubelles, il fallait monter dans la remorque, ranger les cartons. Et ce jour-là, j'avais rien dit à personne. C'est en plein été. Il faisait chaud depuis plusieurs jours. Et c'était à moi de rentrer dans la remorque pour ranger. Et donc, c'est une grande remorque faite de grillage. Je me mets dessus, je tombe dans la remorque. Et puis, tout d'un coup, je me rends compte que j'arrive pas à retirer mon pied. Il était coincé. À un moment donné, j'arrive enfin à sortir mon pied et je me rends compte que j'étais tombé dans un carton de viande et d'os avariés. Et quand j'ai sorti mon pied, il y avait des asticots partout. Au point que j'avais des chaussures assez évasées et il y a des... Parce que c'est vif les asticots. Et donc il y en a qui sont passés entre ma chaussette et la semelle, si bien que quand je suis redescendu de l'autre côté, ça a fait... Et j'avais des asticots écrasés entre mes doigts de pied. Et ça sentait mauvais. Alors je me suis tourné vers Dieu en lui disant « Tu exagères, c'est mes 20 ans, t'es gonflé !» Et là, il y a une voix du Seigneur dans mon cœur, en tout cas très fortement, qui me dit « Bernard, si tu n'es pas capable d'accepter une telle situation pour aider les personnes, alors tu n'es pas capable d'être mon disciple. Tu veux être mon disciple ? Alors tu acceptes. Ça a changé ma vie, ma conception, si bien que quand on recevait, je pense à un en particulier, parce qu'avec Daniel, nous avons fait beaucoup d'accueil à la maison, et je pense en particulier au premier qui avait un problème d'alcoolisme grave, qui est resté 13 mois à la maison, et quand il rentrait, qu'il vomissait sur le sol, ben, j'allais pas demander à Daniel de nettoyer, c'est moi qui nettoyais avec des haut-le-cœurs parce que ça sentait mauvais. Enfin, c'était. Et la petite voix, Bernard, si tu n'es pas capable de faire ça pour aider, alors tu n'es pas capable d'être mon disciple. Vous savez, et je lui disais, mais quand j'étais dans cette remorque-là, purée, je suis en dépression. Sentimental, donne-moi un coup de main au lieu de me donner un coup de main. Et la circonstance a fait que j'étais tombé dans un carton de viande avariée. Quand nous avons perdu notre première fille dans cette chambre de clinique, on aurait pu aussi dire pourquoi moi, hein, pourquoi nous, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, mais on n'a pas fait ça du tout. On a dit, mais Seigneur, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais on continue à te faire confiance. Et c'est ça qui nous a procuré la paix. En fait, la souffrance ne doit jamais être stérile. Et lorsque nous sommes, pour des raisons diverses, quand nous sommes cassés par la souffrance physique, psychologique ou spirituel, ce que veut faire Jésus, c'est de nous raccommoder. Et je trouve que ça, c'est un art japonais. Les morceaux ont été cassés, enfin, le vase a été cassé, les morceaux ont été recollés avec de l'or. Et j'aime énormément cette image dans le sens où, lorsque nous sommes cassés, le Seigneur vient nous réparer et nous sommes encore plus beaux. Ben c'est pas rien. Il vient nous réparer pour que nous soyons encore plus beaux. Pour qu'à l'intérieur, nous soyons plus forts, plus beaux. Je l'atteste parce que je suis un vieux maintenant. Hein. Et donc, j'atteste que... mes nombreuses souffrances m'ont permis à chaque fois des rencontres personnelles avec Dieu. Ça a toujours été des souffrances, mais pour rencontrer Dieu d'une manière particulière, dans des moments particuliers, avec une action de son esprit particulier dans mon cœur et dans ma vie. Voyez-vous, la vie chrétienne, la vie de foi avec Jésus, c'est pas les bisounours, quoi. En même temps, je suis très, très, très heureux d'être un disciple du Christ. Vous le savez, vous me connaissez. Mais Jésus ne nous a jamais promis une vie facile. Jamais. Et puis, parce que j'entends, en tant que pasteur, des personnes se plaindre. Alors venez, continuez à vous plaindre. Ouais, c'est pas très grave. Mais parfois, nos plaintes n'ont rien à voir avec les souffrances de personnes issues de la communauté israélite ou musulmane. Parce que quand ces personnes se tournent vers le Seigneur, là, il y a des persécutions et de la persécution de la famille. Et du rejet. Alors, on a beau dire, c'est compliqué, c'est dur, mais essayons de comparer les choses, quoi. Est-ce que c'est vraiment dur ? Est-ce que c'est vraiment difficile ? Oui, toute souffrance est à prendre en compte. Mais parfois, il faut quand même aussi savoir relativiser les choses. Moi, j'y connais rien, je suis jamais monté sur un cheval. Mais quand je vois, ne serait-ce que là, avec les Jeux Olympiques, on nous apprend que le cheval et le cavalier ne doivent faire qu'un. Mais ça veut dire que quelque part, si c'est le seigneur qui est le cavalier, nous on est le cheval. Ça veut dire que le seigneur nous prend, c'est lui qui tient les rênes, et puis il nous emmène et il nous entraîne par-ci par-là. Et parfois, en tout cas c'est vrai, quand il y a des sauts d'obstacles, ben, il faut les sauter. Mais on voit bien que le cheval, des fois, il n'a pas envie. Et on sait bien que nous, on n'a pas envie de passer par la souffrance. Et on essaye de l'éviter. Et dans sa sagesse, le cavalier, il va faire un tour avec le cheval, etc. Et il revient à chaque fois devant le même obstacle pour que le cheval puisse passer l'obstacle. Ainsi en est-il de notre vie spirituelle. Lorsque nous ne savons pas, lorsque nous ne pouvons pas sauter au-dessus de l'obstacle de la souffrance, eh bien, le Seigneur nous permet de faire un tour, ou il nous emmène faire un tour jusqu'à ce qu'on arrive à sauter. Et parfois, ça m'est arrivé, il y a quelque temps, de dire à quelqu'un, c'est toujours un jeune très fougueux. Je lui dis, mais tu sais, t'es tellement fougueux et ça va n'importe où que le Seigneur est obligé de te mettre un mort dans la bouche pour pouvoir te conduire et te diriger. Mais il n'avait pas envie. On a le droit de ne pas avoir envie. Mais la réalité spirituelle est comme ça, quand même celle-ci. Je critique pas parce que moi-même, lorsque j'étais en déception sentimentale, le pasteur avec qui j'étais parmi les marginaux, là, il est venu un matin pour me dire « j'ai prié pour toi et pour ta situation, et voilà ce que Dieu te dit, il te dit qu'il t'enlève cette fille pour te donner le double ». Alors tout le monde aurait pu dire « c'est bien », mais moi je lui ai répondu « j'en ai rien à foutre du double, c'est elle que je veux ». Non mais, faut être clair. Est-ce que c'est assez clair? En tout cas pour le Seigneur c'était clair. Et comme pour le cavalier, il m'a emmené faire un petit tour jusqu'à ce que... Et puis finalement il avait raison parce que... Il ne pouvait pas y avoir quelqu'un de mieux que Daniel pour qu'on se marie. Ah ouais. Elle voulait un homme beau, grand, artiste. Eh bien, elle a eu tout ça. Non, je plaisante. Je lui dis des fois. Ouais, t'as dit à ta mère que j'étais pas beau. Et sa maman, elle voulait que prier pour moi pour que je puisse grandir, pour que je puisse avoir sa taille. Je veux terminer. Le secret, me semble-t-il, de la résilience, c'est notre intimité avec Dieu, notre intimité avec Jésus. C'est ça qui change. C'est parce que je l'aime, je dirais, c'est parce que je le kiffe que je continue à marcher avec lui. C'est pas juste une idée théologique, une idée de Dieu, c'est que mon cœur est attaché à Dieu. Parce que je vis d'une manière intime avec lui, et quand je dis ça, c'est le lot de chacun d'entre nous. Ah, ça me fait bizarre, Antoine, à chaque fois il dit Pasteur Bernard, moi j'ai pas trop l'habitude. L'intimité avec Dieu, ça se construit. Dans le Cantique des Cantiques, mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Ça, c'est la personne qui vient de se tourner vers le Seigneur et qui dit waouh, chouette, Dieu est à moi. Mais ça, c'est la priorité. Et moi, je lui appartiens aussi un petit peu. Et puis, un peu plus loin, dans le cantique, je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé à moi. Vous voyez, il y a une inversion. La priorité maintenant, c'est que moi, je sois à mon bien-aimé avant qu'il ne soit à moi. Et puis, enfin, au chapitre 7, je suis à mon bien-aimé, point barre. En fait, le souci parfois, y compris chez les disciples du Christ, c'est de faire de Dieu un produit de consommation. Et je ne crois pas que Dieu ait envie d'être un produit de consommation, mais qu'il a envie d'une relation amoureuse, personnelle, entre toi et lui, entre lui et toi. Si l'amour ne remplace pas l'intérêt, on ne tient pas dans notre engagement dans le temps. Nous pouvons avoir un intérêt. Ma mère est sortie d'un hôpital psychiatrique où je l'ai vue pieds et mains attachés dans le lit. Elle est venue vers Jésus parce qu'elle en avait besoin. Mais les années faisant, son intérêt s'est estompé pour laisser juste la place à l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. Dans cette lit d'hôpital, je disais, Seigneur, nous ne te comprenons pas, nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, mais nous te faisons confiance, parce que nous t'aimons et parce que nous savons que tu es un Dieu plein de compassion. Je vais certainement m'arrêter là. Comprenons que le Seigneur aime chacun d'entre nous, chacun en particulier, aucun doute là-dessus. Maintenant, un peu comme les parents qui éduquent les enfants et essayent de voir ce qui est le mieux pour eux, le Seigneur nous éduque. J'entends bien, moi, mes enfants dire à mes petits-enfants, arrête la tablette, va te coucher, range ta chambre, fais tes devoirs. Punaise, mais c'est tous des trucs que les gosses n'aiment pas entendre, quoi. C'est infernal d'être dans un monde comme ça. Mais si on le transpose sur le plan spirituel, c'est des fois un peu pareil. Seigneur, lâche-moi les baskets, j'ai envie de faire et de vivre ce que je veux, comme je veux. Ah oui, mais pour ton bien, je préfère que tu choisisses un autre chemin. Le Seigneur nous éduque, ça ne nous plaît pas toujours, mais c'est indispensable. Je parlais tout à l'heure de vase. Lorsque l'argile est malléable, on en fait des vases d'honneur ou des vases permettant des fleurs. Lorsque le vase est, lorsque l'argile est coriace et qu'on n'arrive pas à la modeler, ben on en fait des usages pour la cuisine, etc. Mais voilà, rien à voir. Et c'est, je crois, l'apôtre Pierre qui dit dans son épître, nous sommes des vases d'honneur. Et donc je te laisse juste avec cette question et je prie. Quelle est la mesure de ton amour pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu acceptes de sa part ou que tu n'acceptes pas dû à son amour? Moi, je ne suis plus le même mec que quand je me suis marié avec Danielle parce qu'elle m'a demandé de changer. Oh, moi, je m'en foutais d'aller dormir sur un banc à la gare et de ne pas prendre une douche pendant 15 jours. Mais ça, c'était plus possible quand j'étais avec elle. Va te laver, coupe tes cheveux. J'ai accepté le changement par amour. Et j'accepte le changement spirituel par amour. Non pas parce qu'il me contraint, mais parce que je l'aime, parce que l'on s'aime, lui et moi. En fait, je ne dis plus pourquoi en levant les poings, mais plutôt pourquoi en scindé, pour vivre quoi, pourquoi vivre, pour comprendre quoi, pour apprendre quoi. Seigneur, au travers de la circonstance difficile et compliquée qui est la mienne, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie pour que je puisse la comprendre et marcher avec toi dans tes voies?